Salut et bienvenue à tous dans l'émission L'eau à la bouche proposée par Mathieu Thélène et Adrien Delgrange. En ce mois de février 2012, L'eau à la bouche sous forme de reportage, direction les assises du plan climat énergie territorial qui se sont déroulées début janvier à Montpellier. Mathieu Thélène a tendu son micro à différents acteurs du monde politique, associatif et économique. L'eau à la bouche, une émission mensuelle diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Divergence FM, Radio Clapas et Radio Larzac.
Mais qu'est-ce qu'un plan climat-énergie territorial? Eh bien, sachez qu'un plan climat-énergie territorial, PCET, est un document stratégique défini par la loi Grenelle 2 de 2010. Elle a fixé pour objectif de diviser par 4 les émissions de CO2 d'ici 2050, en cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France. À l'échelle d'un territoire, le plan climat organise la gestion économe des ressources et des consommations d'énergie, de façon à limiter leur contribution à l'effet de serre, tout en développant une stratégie d'adaptation au changement climatique. Les communautés d'agglomération et les communes de plus de 50 000 habitants doivent adopter leur plan climat-énergie territorial avant le 31 décembre 2012. Dans ce cadre, Montpellier Agglomération a tenu à la réalisation du plan climat-énergie territorial comme la ville de Montpellier et elle a reçu les propositions volontaires des 4 autres communes qui ont souhaité participer à l'élaboration de ce plan climat-énergie, à savoir Bayargues, Castelnau-le-Lez, Lattes et Pérols. Les objectifs européens et internationaux fixés par les lois Grenelle sont diminuer les effets, les émissions des gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020 par rapport à 1990, divisé par 4 d'ici par 2050. D'autre part, diminuer les consommations d'énergie de 20% d'ici 2020. Porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale à 23% en 2020. Et enfin, anticiper les impacts du changement climatique pour s'y adapter. Deux volets majeurs constituent le plan climat pour répondre à l'urgence. Premier volet, l'atténuation du changement climatique par la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et deuxième volet, l'adaptation du territoire à ce changement aujourd'hui inéluctable. Dans un premier temps, une phase de diagnostic a été menée dans les collectivités participantes depuis octobre 2011. Elles ont ainsi fait l'objet d'un bilan carbone pour évaluer en tonnes équivalent CO2 leurs émissions à gaz à effet de serre. Consommation d'énergie des bâtiments, déplacement des agents, collecte des déchets, exploitation du réseau de transport pour l'agglomération, gestion des écoles et de la voirie pour les communes, toutes les activités des collectivités ont été passées au crible pour pouvoir poser un bilan des plans d'action adaptés pour mener à bien le défi lancé par le plan climat-énergie territorial. Aujourd'hui, les transports et les bâtiments représentent les deux principaux postes d'émission des gaz à effet de serre, 76%, et de consommation d'énergie, 92%, sur un territoire qui, globalement, émet moins de CO2 qu'ailleurs. Avec peu d'industrie, un climat doux demandant moins de chauffage et un territoire urbanisé limitant les déplacements motorisés, un habitant de l'agglomération de Montpellier consomme en moyenne 1,47 TEP, donc tonnes équivalent CO2 par an contre 2,60 en France et 1,93 en région Languedoc-Roussillon. Voilà ce qu'il pourrait dire en résumé sur ce plan climat-énergie territorial et ses premières assises. Nous continuons et nous allons poursuivre en débutant un tour de parole des invités ou des participants qui étaient présents à ces premières assises du plan climat-énergie territorial.
De ser un bardo chamullador letrao ni de aspamento. Yo digo humildemente lo que siento, pa' escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo, ni al coste el agua azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento pa' cantarle una flor, le canto al carro, porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón de la bacana y del tango candombero y cadencioso. Surge a torrente mi tonga musa, porque yo tengo el alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. No tengo el berretín de ser un bardo.
L'émission L'eau à la bouche vous propose de revenir sur les premières assises du plan climat énergie territorial qui s'est déroulé le jeudi 12 janvier 2012. Au quorum, avec derrière, côté organisation, Montpellier Agglomération, la ville de Montpellier, les villes de Castelnau-le-Lez, Latte, Pérols et Bayargues. Je suis avec à mes côtés monsieur Jean-Luc Messonnier, qui est vice-président de la communauté d'agglomération de Montpellier, président délégué de la commission développement durable, énergie nouvelle et gestion des temps, et également maire de Bayargues. Bonjour monsieur Messonnier, est-ce que vous pouvez me faire une présentation de ces premières assises du plan climat et énergie territoriale?
Mais ces premières assises ont pour objet de réunir un maximum de personnes, d'une part de la société civile, aussi des politiques qui se sont engagées dans ce plan climat et ces premières assises, d'avoir des échanges, de faire un bilan, une sorte de concertation, et pour pouvoir agir après dans un deuxième temps au printemps sur des ateliers qui seront beaucoup plus spécifiques pour avoir des grandes lignes pour arriver à ce fameux paquet des 3x20. Donc 20% d'économie d'énergie, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la part des énergies renouvelables à 23%. Voilà.
Les objectifs de ce plan climat sont faits pour s'appliquer à quelle échelle dans le territoire ?
Alors, on pourrait se dire, bon, c'est sous la houlette de l'agglomération de Montpellier, mais je crois qu'il y a un décloisonnement qui est évident. On le voit par un rapprochement très récent des deux agglomérations, de la toute nouvelle agglomération de l'Étang de l'Or et l'agglomération de Montpellier. Donc, c'est à une échelle de territoire, l'échelle du territoire montpelliérain et de sa grande agglomération, je dirais, de son agglomération urbaine, son aire urbaine. Il est évident qu'à travers les bassins versants, donc en matière d'inondabilité, à travers la gestion de l'eau et des ressources en eau ces fameux syndicats qui alimentent, je pense par exemple au syndicat Carigué-Campagne, qui alimentent d'une part la communauté d'agglomération, mais d'autre part d'autres collectivités, d'autres communautés de communes, il y a des éléments à mettre en commun, des éléments pour économiser l'énergie, des éléments pour alimenter donc en eau potable, pour éviter les inondations et aussi en matière de transport, pour mutualiser les transports collectifs publics.
Alors ces premières assises sont, on va dire, en majeure partie portées par Montpellier Agglomération. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes mis dans cette dynamique, entre guillemets, un peu de développement durable ?
Je crois que ça remonte à un peu plus de 8 à 10 ans, mais bon, déjà à savoir que la politique mise en œuvre depuis 2010 par Montpellier Agglomération permet déjà de se rendre à l'évidence de toutes ces démarches-là, puisque la moitié de l'électricité consommée par Montpellier Agglomération provient des énergies renouvelables. Donc il y a vraiment une démarche, et cela depuis 2010, il y a une démarche volontariste pour arriver à ces objectifs qui sont, même s'ils sont, je dirais, assez loin, on nous prétend qu'ils seront difficiles à atteindre, la volonté est là, avec les transports, comme peut le dire le président Jean-Pierre Moore, les transports avec l'ouverture de la troisième et quatrième ligne de tramway en même temps, toutes les démarches éco-cités qui vont permettre de requalifier des zones qui sont des zones à risque, puisqu'elles sont, elles ont été aménagées il y a très longtemps dans des zones, dans des parties inondables, notamment, je pense, le secteur de Pérols, Latte. Tout cela existe depuis longtemps. Il y a des démarches qui sont longues à mettre en place, mais qui sont déterminantes.
Alors ce plan climat énergie territorial va être décliné ici, tout autour de Montpellier et donc des communes voisines. Est-ce que c'est un dispositif qui s'intègre dans un cadre plus national ?
Alors le cadre plus national, bien sûr, ça s'intègre dans un cadre beaucoup plus national, à savoir que à travers le Grenelle 2 et à travers les différentes démarches qui sont imposées à l'échelle mondiale, mais ce n'est pas des grandes directives mondiales européennes qui nous donnent cette impulsion, puisque bon, on voit ce qui ressort de Durban, ce qui a pu ressortir de Copenhague, c'est pas folichon, arriver à mettre un maximum de pays autour de la table, s'entendre sur ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, n'est pas évident, ce qui nous empêche sur le secteur de Montpellier et l'agglomération de Montpellier, c'est de continuer à avancer, parce que nous avons un territoire qui est beaucoup plus vulnérable que d'autres, vu la proximité déjà de la partie littorale, avec le réchauffement climatique qui est beaucoup plus évident dans des régions qui sont, comme nous, beaucoup plus chaudes que d'autres, notamment dans le nord de la France ou même dans le centre de la France. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour avancer et ne pas attendre que tout le monde se mette à avancer d'un coup, je pense surtout à une échelle internationale. Nous aurons toujours des différences d'impulsion et de motivation à travers, je dirais, les différents pays, et l'industrialisation, je dirais, est là pour, je dirais, un peu malheureusement contrecarrer la volonté des uns et des autres d'aller dans le bon sens.
Alors cette journée des premières assises du plan climat énergie territorial se décline sous la forme de séances plénières, de conférences, d'ateliers qui invitent des experts mais aussi les élus. Quel est le public que vous auriez souhaité voir présent aujourd'hui ?
Je crois qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que le public qui est présent aujourd'hui, c'est un public qui est motivé, donc des différents acteurs de la société civile, des scientifiques, des chercheurs, des gens qui sont sensibilisés sur ce problème du réchauffement climatique. Et je crois que l'objet aujourd'hui, c'est d'arriver à échanger, à se retrouver autour d'une concertation sur le bilan de ce que l'on peut faire aujourd'hui de ce réchauffement climatique. Et le public aujourd'hui doit, je dirais, nous servir de porte-parole. Les gens qui seront là aujourd'hui, notamment cet après-midi, dans les deux différents ateliers de cette journée, seront les ambassadeurs pour avancer plus généralement sur des actions qui vont être au printemps avec des ateliers et finaliser en fin d'année ce plan climat énergie territorial.
Ce que vous souhaitez, c'est que les personnes qui sont venues aujourd'hui assister et voir ce qui est dit ici aux premières assises jouent le bouche à oreille et fassent une promotion de ce plan énergie-climat.
Tout à fait. Les gens qui sont là aujourd'hui, je pense, sont convaincus qu'il y a quelque chose. On ne vient pas ici à 9h du matin alors qu'il fait froid, en curieux, pour boire un café. Je crois que les gens sont là, attendent des réponses, attendent notamment de pouvoir s'exprimer pour donner leur avis, amener des orientations, et en même temps sont là pour amener leur pierre à l'édifice. Je crois qu'il y a une volonté forte de ces gens-là. Ces gens-là doivent peut-être avoir des outils pour, j'appelle outils, des moyens de communiquer pour démocratiser ce plan climat-énergie qui, pour certains, est un peu vague encore, mais il est beaucoup moins que ce que pouvait être à l'époque l'agenda 21 pour pas mal de personnes, c'était tout et très compliqué. Donc là, je pense qu'avec le plan climat-énergie, on arrive à démocratiser et à rendre beaucoup plus accessibles les problèmes et les enjeux des futures années.
Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Montpellier et maire de Baillargues, de la commune de Baillargues. Si on s'intéresse à la communauté des élus, est-ce que vous avez l'impression que par rapport à ces idées du développement durable, d'un changement climatique auquel on va devoir s'adapter et changer notre peut-être manière d'organiser le territoire, est-ce que vous avez l'impression qu'au sein des élus, ce discours-là nécessite encore de convaincre certains esprits, ou bien est-ce que, par exemple, au sein de Montpellier agglomération, vous avez l'impression que la majorité des élus vous suivent dans cette dynamique que vous essayez aujourd'hui d'impulser ?
Au sein de Montpellier Agglomération, je dirais la quasi-totalité des élus nous suit dans cette démarche, techniciens qui travaillent là-dessus, politiques et moi en l'occurrence responsable de cette démarche-là. Alors pourquoi ? Parce que j'entends par-ci et là dire oui, mais c'est des mesures qui vont peut-être coûter cher, c'est des mesures qui, oui, quoi qu'il en soit, comme on disait, c'est des mesures qui coûtent cher peut-être en investissement aujourd'hui, mais qui feront économiser dans les prochaines années beaucoup d'argent, notamment sur le côté fonctionnement. Donc, quand on investit dans des lignes de tramway, quand on investit sur les économies d'énergie que l'on peut apporter à des foyers à travers des logements qui se veulent économes en énergie, à travers des transports publics collectifs qui sont là pour lutter en même temps, je dirais, contre la précarité énergétique, parce que moi je me plais à le répéter, la précarité énergétique ne se limite pas à l'amélioration que l'on peut faire dans l'isolation d'un bâtiment avec les nouveaux procédés, les nouveaux matériaux pour économiser toutes ces consommations au gaz et électricité. La précarité énergétique, c'est aussi les gens qui sont partis habiter en deuxième, troisième couronne parce que le foncier était trop cher et ils ont réussi à avoir un petit bout de terrain, une maison peut-être un peu plus agréable. Mais vu l'augmentation du prix du pétrole, la raréfaction des énergies fossiles, il est évident que dans quelques années, ces gens-là vont se retrouver avec l'augmentation exponentielle du pétrole vont se retrouver dans un contexte de précarité énergétique. Donc il est très important de prendre en compte tout cela, d'arriver à faire rentrer dans l'esprit des gens que habiter dans un centre un peu plus densifié, dans un centre, je dirais, où les logements sont de plus en plus nombreux, mais avec, bien sûr, l'accès au transport public, avec un équilibre des parcs urbains qui seront aménagés, va permettre quand même à certaines familles et certains foyers de vivre beaucoup plus sereinement dans des perspectives qui ne sont pas des plus folichonnes en matière d'économie d'énergie, et surtout on va être obligé de passer par là, quoi. Économie d'énergie, et surtout l'énergie va être de plus en plus chère, notamment l'énergie fossile, charbon et pétrole.
À ce jour de ces premières assises, est-ce que vous avez déjà une idée à peu près des actions qui vont concrétiser ce plan énergie climat territorial?
Je crois qu'il serait trop prématuré de dire oui, on a des actions, enfin on a des actions au quotidien qui sont déjà dans la démarche du plan climat énergie territoire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui cette réunion, ces premières assises sont là justement pour concrétiser une concertation et une participation collective à des démarches qui vont entraîner des économies d'échelle en matière de ces phénomènes-là. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'engager sur quelque chose de fondamental que l'on n'aurait pas préalablement étudié ou anticipé. Je le répète, nous avons nos parts sur l'agglomération de Montpellier, on a du photovoltaïque, on a du biogaz, on a aussi de l'éolien avec sur le plateau de Melas qui va déborder sur Cournon-Terral, les transports urbains avec les différentes lignes de tramway. Donc on a quand même une démarche qui a été anticipée depuis quelque temps, mais elle est à améliorer, elle est peut-être à modifier, il y a peut-être d'autres éléments qui nous ont échappé et qui seront en accord avec, je dirais, l'ensemble des acteurs qui vont donc bien participer à ces ateliers qui seront organisés au printemps. Voilà, nous arriverons à orienter d'autres actions. Ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui, bien prétentieux seraient ceux qui diraient bon, mais ça y est, on a trouvé quelque chose pour avancer d'une manière beaucoup plus considérable.
Jean-Luc Messonnier, eh bien, je vous remercie. Je crois savoir que vous allez devoir rejoindre le pupitre pour faire l'ouverture de ces premières assises du plan climat énergie territorial. Pour ma part, je vais essayer d'aller chercher quelques participants pour leur poser des questions et savoir le pourquoi de leur venue. Merci.
Merci à vous.
Parmi les personnes présentes à ces premières assises du plan énergie climat territorial, eh bien, je retrouve Bruno Franck, qui est de la DIFED, directeur de la DIFED, de l'association DIFED, qui était il n'y a pas si longtemps dans l'émission L'eau à la bouche. Est-ce que tu peux nous préciser le pourquoi de ta présence ici aujourd'hui à ces premières assises?
Alors, sans trop développer, il y a au moins deux ou trois bonnes raisons pour être là. À la fois, on est un acteur du territoire et à ce titre-là, ça nous intéresse et on s'intéresse aux dynamiques participatives, même quand ce n'est pas nous qui les animons. C'est une première raison. Deuxième raison, dans une approche peut-être un peu plus intéressée, c'est voir le type de dispositif qui est mis en place, parce que entre organiser une grand-messe avec beaucoup de monde et puis mettre en place un réel dispositif participatif dont il peut sortir des choses concrètement en termes d'idées, en termes de plans d'action, il y a une grande différence. Donc là, ça nous intéresse en termes de méthodo. Et puis troisièmement, parce qu'on a rencontré à plusieurs reprises les gens de la mairie de Montpellier sur ces questions, que ce soit dans l'organisation derrière, sur la formation des agents, sur la mise en place de dynamiques d'éco-responsabilité, sur l'animation d'ateliers participatifs. C'est des choses sur lesquelles nous, on a des compétences et c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien, dans le cadre d'un partenariat, les mettre à disposition de partenaires qui essaient de faire avancer les choses.
Très bien, merci Bruno.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alors, je retrouve maintenant Sébastien Ledentu qui exerce depuis quelques temps une nouvelle fonction au sein de l'association APIE, non ?
À part directeur adjoint, sinon je suis toujours sur l'environnement sonore essentiellement.
Et tu as participé à la réalisation ou au montage, d'une certaine manière, tu as participé au montage de ces premières assises du plan climat énergie territorial. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon ?
Alors, l'agglomération nous a demandé de réaliser un film pour donner la parole aux habitants et apporter des points de vue différents de ce qu'il pourrait y avoir lors des assises pour alimenter le débat. Donc c'est un film qui dure 8 minutes. Où on interroge des habitants, on interroge des spécialistes, énergéticiens, climatologues, etc. de la région, qui donnent leur point de vue et qui apportent leur vision pour lancer le débat des assises.
Et côté changement climatique au sein de l'APIE, de quelle manière vous participez aussi de près ou de loin à cette dynamique ou à cette réflexion qui est faite ici sur le territoire de Montpellier et puis autour des communes qui sont aux alentours ?
Ah bah nous, à l'APIE, depuis 25 ans, c'est de la sensibilisation à ce qu'on peut appeler le développement durable. Donc avec des entrées thématiques, bon, moi sur le bruit, mais d'autres c'est sur l'air. Donc ça aborde effectivement les changements climatiques, sur l'énergie, donc la nécessité d'entamer une réflexion sur la maîtrise de l'énergie. D'autres thèmes, la gestion des déchets, donc globalement, oui, c'est le réchauffement climatique a un impact sur notre région localement, donc on sensibilise à ça.
Est-ce que tu as des attentes par rapport à ces premières assises ou est-ce que tu es juste là uniquement pour entendre ce qui est dit puis après faire un bilan mais beaucoup plus tard ?
Ah, moi je suis venu pour voir d'une part représenter l'APIE puis aussi voir ce que ça donne le film au niveau des auditeurs et puis voir aussi ce qui se raconte avec tous les experts, les élus qu'il va y avoir, voir un petit peu ce qui en ressort.
Et par rapport à ce que tu as entendu lorsque vous avez réalisé ce film, est-ce que tu as déjà une idée à peu près de ce qui va se discuter aujourd'hui ou est-ce que tu t'attends à être surpris par les avis des uns et des autres ?
Non, je ne m'attends pas trop à être surpris, non.
Bon.
On a le programme, hein, donc c'est précarité énergétique, c'est maîtrise des ressources, c'est comment la collectivité s'en empare. Le point de vue des habitants... S'il y a des habitants dans la salle, bah, ils l'exprimeront, mais il ne me semble pas trop avoir vu d'habitants sollicités.
Bon, je te laisse alors suivre ces premières assises, et puis peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans une autre émission.
Oui, d'accord.
Bonne journée.
Ambiance tango argentin avec le chanteur et musicien Melingo qui vient de sortir un nouvel album chez Harmonia Mundi.
No toca el violín, la flauta una cucaracha, clarinete una vizcacha y el mandolín un ratón, un lagarto el acordeón, un loro la concertina y un caballo el bandoneón. Veinte parejas bailaban en una sala espaciosa y una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban unos tanguitos con cortes y con quebradas y una mosca se enamoró.
Sombrerito. Oh,
Y una linda mariposa con un piojo compadrito
bailaban unos tanguitos
con cortes y con quebradas y una mosca
se enamoró
y una mosca. Se enamoró.
J'en profite pour déranger Cyril Meunier à son petit déjeuner. Donc vous êtes maire de Latte et vice-président de Montpellier Agglomération. Je me permets de vous déranger juste pour savoir vos motivations et puis le pourquoi de votre présence aujourd'hui à ces premières assises du plan climat énergie territorial.
Je crois que la motivation, elle est celle de tout le monde. Je crois qu'il faut maintenant prendre conscience que si dans les années à venir, nous ne traduisons pas au sein de l'urbanisme des villes et dans la modification des différents équipements qui sont les nôtres dans les collectivités locales, notre comportement vis-à-vis de la consommation d'énergie, vis-à-vis de la création d'énergie, vis-à-vis du respect de l'environnement, eh bien, on n'aura aucune capacité à entraîner derrière nous les différentes composantes de la société. Parce qu'on sait très bien que le pari sera gagné quand chacun des citoyens, à son niveau, modifiera ses modes de comportement, gérera son patrimoine, modifiera son patrimoine, équipera son patrimoine immobilier et autres, afin que les petites pierres s'amoncellent les unes et les autres pour qu'on puisse gagner ce pari du plan climat. Si les collectivités ne sont pas les premières à s'engager fortement dans cette démarche, je ne pense pas qu'on puisse arriver à une telle œuvre pédagogique.
Alors ces premières assises sont d'une certaine manière l'occasion pour les collectivités de présenter à l'ensemble, j'allais pas dire du public, mais plutôt à l'ensemble des acteurs du territoire, ce qui a aujourd'hui été mené en termes de réflexion autour du changement climatique, de quelles actions mener à l'avenir, ou du moins de quelles orientations, quels outils mettre en place. Est-ce que vous, cette manière de faire, c'est-à-dire d'aujourd'hui ouvrir à un peu plus de concertation autour de cette problématique de comment allons-nous adapter nos territoires au changement climatique, ça vous semble la bonne manière de faire ?
Oui, je pense que ouvrir le débat, c'est toujours la bonne manière de faire. Parce que personne n'a la science infuse, que ce soit les techniciens, que ce soit les scientifiques, que ce soit les politiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner la ligne de conduite. On va dire déjà ce que nous avons décidé, et c'est déjà très important. On va donner un témoignage de notre engagement fort dans le programme Éco-Cité, qui est quand même l'extension donc, de l'urbanité de l'agglomération de Montpellier, entre Montpellier, Latte, Pérols et Castelnau-le-Lez, pour montrer qu'à tous les actes d'urbanisme, à tous les actes d'aménagement et de création de bâtiments sur cet axe de l'éco-cité, nous allons veiller à mettre en avant toutes les nouvelles technologies qu'on nous proposera. Et c'est en cela que le débat est intéressant, parce qu'on va sûrement, il va sûrement y avoir pas mal de solutions qui vont émerger de ces rencontres et de ce qui va suivre après ces rencontres. Parce que là, c'est l'acte fondateur du débat, hein, où on vous invite, vous, la presse, où on invite les gens qui souhaitent participer avec nous à cette réflexion. Et puis ensuite, il y aura le travail sur le terrain. Et je crois qu'on va avoir des solutions. Moi déjà, j'ai été ébahi par les différentes solutions qui ont été présentées par les architectes, par les techniciens béton, par les techniciens des matériaux de construction, quant à la prise en compte du réchauffement du climat sur notre territoire méditerranéen pour garder la fraîcheur sans pour cela consommer des tonnes et des tonnes d'électricité, électricité qui va devenir de plus en plus chère. Il est évident, enfin à mon niveau, je suis à peu près certain que à l'issue des élections présidentielles, et malheureusement quel qu'en soit le résultat, dans les 6 mois qui viennent, on aura une augmentation entre 20 et 25% d'électricité, et ce n'est qu'un début. Donc il est temps que tout à chacun, on s'implique dans cette démarche de recherche technique. Et puis par ailleurs, c'est très intéressant, parce que toutes les nouvelles technologies qu'on pourra trouver, toutes les nouvelles techniques qu'on pourra trouver, ça voudra dire brevet, ça voudra dire savoir-faire, ça voudra dire exemplarité, et peut-être capacité à au-delà des frontières de la France, à l'exporter notre savoir-faire.
Alors à vous écouter, on comprend que les collectivités territoriales ont matière à agir dans le domaine de l'urbanisme, des règlements qui sont associés à l'urbanisation des territoires. Est-ce que d'après vous, il y a d'autres domaines de compétences qui seraient celui des collectivités dans lesquels vous allez pouvoir agir en matière d'adaptation au changement climatique ?
Ah oui, mais c'est très 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 simple. On est avant tout des consommateurs. Vous êtes, consommateurs chez vous. Nous, on est consommateurs sur tout le patrimoine communal. L'éclairage public. Important, l'éclairage public. Si aujourd'hui, on ne rénove pas notre matériel, si on ne met pas des lampes à basse consommation, eh bien, on n'est pas du tout dans le sens de l'histoire. À l'heure actuelle, à Latte, je ne voulais pas prendre un exemple purement la toile. Le débat est bien au-delà de ma commune. Mais on est en train de rénover totalement nos anciennes écoles. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget, beaucoup de dépenses. Et je crois que c'est l'avenir pour que les conditions d'adaptation au climat et au changement climatique se fassent dans les écoles. C'est nos patrimoines communaux, comme on les appelle.
Très bien, je vous remercie. Je vous laisse aller assister à ces premières assises et finir votre café.
En matière d'énergie, l'agglomération est engagée dans une démarche de réduction des consommations sur ses bâtiments, avec des résultats concrets. Moins 20% en 5 ans.
Jean-Pierre Moore, président de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Dans le même esprit, elle a participé à la création de l'Agence locale de l'énergie, outil de sensibilisation, d'information et de conseil en matière d'économie d'énergie. L'ALE permet la diffusion de bonnes pratiques sans laquelle l'effort des seules collectivités serait vain. J'en salue ici les représentants qui œuvrent tous les jours au service du public et des communes sur l'ensemble de l'agglomération. Par-delà cette nécessaire mobilisation en faveur des économies d'énergie, notre institution a également souhaité généraliser la production d'énergie renouvelable sur ses bâtiments et ses équipements. C'est d'abord la valorisation du biogaz sur le site du TOT et à l'unité Amethyst, demain à la station Maeva. C'est aussi la généralisation des installations solaires sur l'ensemble des bâtiments communautaires, dont les piscines, les médiathèques et sur les parkings tramways. C'est enfin des bâtiments à énergie positive comme l'incubateur d'entreprise MIBI, bâtiments qui accueillent les entreprises œuvrant à l'international et celles qui, de l'international, viennent ici apporter également leur coopération et leurs échanges économiques. Au total, c'est l'équivalent des besoins d'électricité de plus de 15 000 ménages qui sont déjà couverts par cette seule production. Je pourrais citer bien d'autres domaines de compétences, tant la liste est longue des actions qui placent déjà l'agglomération de Montpellier aux avant-postes des politiques innovantes en matière de développement durable. Pour autant, j'ai bien conscience que cela ne suffira pas. Pour atteindre les objectifs du facteur 4, il va falloir démultiplier nos efforts, généraliser ce qui est aujourd'hui exceptionnel ou exploratoire, faire que l'excellence devienne la règle. C'est dans cet esprit que je souhaite que le projet Éco-Cité développe des expériences reproductives à toute échelle sur le territoire de nos 31 communes, et sont à la fois reproductibles, pérennes, quant à l'exemple et la traduction de ce qui doit être l'extension, le développement, la maîtrise des différents nouveaux quartiers, mais également la requalification de l'ancien et de l'existant. La définition du plan climat doit ouvrir de nouvelles voies. Elle doit permettre l'expression de toutes les idées utiles, sans a priori, sans tabou. Et les assises de ce jour sont particulièrement dans le ton que j'entends donner à l'ouverture d'esprit pour partager ensemble un devenir vertueux. J'entends que ce travail mobilise bien au-delà des acteurs publics, les entreprises, la recherche, les universités, les associations. Et pour ce qui est de la recherche et de l'université, un débat récent tournant autour de la gouvernance, de ce qui pourrait être plus efficace dans l'avenir, ne doit pas nous écarter du fait que l'excellence, la performance des laboratoires montpelliérains qui obtiennent des labels, des équipex, est directement à la disposition de ces enjeux que nous avons à travailler ensemble. Et j'ai particulièrement confiance en eux pour l'avenir. Et notamment au sein d'Éco-Cité, la participation directe, très imbriquée de ces laboratoires, de ces chercheurs, est pour nous un atout considérable, ramené dans l'intérêt principal de celui du citoyen. J'entends donc que ce travail nous mobilise tous. Je souhaite aussi qu'il s'ouvre aux citoyens de cette agglomération, qui sont les premiers acteurs du changement qui nous engagent collectivement. Faisons un pas de plus vers ce que nous appelons la conversation citoyenne que j'ai eu le plaisir de lancer dans le dernier trimestre de l'année 2011. Je compte sur vous pour tous ces objectifs. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette journée débat assise particulièrement importante. Et je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci.
C'était Jean-Pierre Mour, président de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, c'est un reportage de Mathieu Tellen sur les premières assises du plan climat-énergie territoriale qui se sont déroulées le 9 janvier dernier à Montpellier.
Entre mariposa negra, va una muchacha morena, junto a una blanca serpiente de niebla. Va encadenada un temblor, un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata, un puñal en la diestra. ¿A dónde vas, Sigrilla, con tu ritmo sin cabeza? Que luna recogerá tu dolor de caña de alfa. ¿A dónde vas, Irilla, con tu ritmo sin cabeza? Que luna recogerá tu dolor. Tierra de luz, cielo de tierra, cielo de tierra, tierra de luz, tierra de luz, cielo de tierra, cielo de tierra, tierra.
J'interromps Christian Duprat, donc de l'INRA. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le pourquoi de votre présence ici à ces premières assises du plan climat-énergie territorial ?
Je vais présenter des nouvelles pistes d'orientation pour l'aménagement de l'agriculture périurbaine et de la capture de l'énergie en zone périurbaine qui concerne, je pense, énormément la zone de Montpellier où les zones agricoles se réduisent comme peau de chagrin et on sait qu'on en aura besoin. Donc il nous faut trouver de nouvelles méthodes d'aménagement qui correspondent aux objectifs d'un plan climat.
Alors est-ce qu'on peut déjà commencer par une définition et savoir pour vous, qu'est-ce que le périurbain ?
C'est toute la zone d'influence d'une grande communauté urbaine comme Montpellier, dans laquelle les fonctions de résidence sont majeures et conduisent à manger le foncier agricole. En France, on perd 75 000 hectares de terres agricoles chaque année pour l'urbanisation. C'est aujourd'hui une très grande préoccupation pour l'avenir.
Et sur le cas particulier de Montpellier et peut-être des communes qui sont alentour dans la communauté de communes Montpellier Agglomération, quel constat aujourd'hui vous faites en tant que chercheur à l'INRA ?
Nous constatons une horreur, c'est-à-dire que nous urbanisons actuellement les meilleures terres agricoles de l'Hérault et que ça va nous poser d'énormes problèmes. On devrait totalement changer d'orientation. Ça a des conséquences sur le bilan de carbone, parce que les terres détruites relâchent énormément de carbone, et ça a des conséquences sur le futur bilan de carbone de la communauté urbaine. Il y a des villes en Europe qui s'engagent sur une démarche neutre en carbone. À Montpellier, on n'y est pas du tout.
Quand vous dites que l'urbanisation de ces bonnes terres contribue à relâcher une quantité assez importante de carbone, c'est par quelle manière ?
C'est la matière organique des sols qui est dégradée, minéralisée. À chaque fois que vous travaillez un sol, que vous le brassez, tout est oxydé. Donc la matière organique des sols qui est le principal stock de carbone sur la planète, avant les forêts, avant même les océans. Et ce stock-là fond à chaque fois.
Alors vous êtes ici aujourd'hui, vous, pour présenter peut-être ce constat, mais aussi amener des solutions. Quelles sont les différentes solutions qui aujourd'hui sont envisageables sur le territoire de Montpellier ?
Il y a plein de niveaux. Nous allons proposer de nouvelles méthodes de mise en valeur de l'espace, que nous appelons des méthodes des systèmes agrivoltaïques, où on concilie la production agricole et la capture d'énergie électrique par les panneaux photovoltaïques. Je vais présenter également des pistes d'agroforesterie, qui sont des systèmes dans lesquels les arbres contribuent à la production agricole et à la maîtrise des changements climatiques. Et toutes ces solutions peuvent être mises en œuvre dans l'agglomération de Montpellier à assez grande échelle.
Ce sont quoi des solutions qui amènent à conserver des espaces agricoles en milieu urbain ou c'est quoi, je veux dire, par rapport à l'avancée de l'urbanisation qui fait compétition au développement d'une activité agricole, vous êtes plutôt de quel côté, voire des deux ?
Nous proposons des systèmes qui sont rentables sur terre agricole en zone périurbaine, c'est-à-dire des systèmes qui sont une alternative à la spéculation foncière et au grignotage permanent de ces terres agricoles.
C'est-à-dire que face à la déperdition ou à la dévalorisation de l'activité agricole, vous amenez un palliatif ou une alternative autre que l'urbanisation ?
Tout à fait. Ce sont des systèmes intensifs, écologiquement intensifs, qui sont susceptibles d'attirer les propriétaires fonciers qui aujourd'hui ne rêvent tous que de construire. Et il faut qu'ils se rendent compte que l'aménagement, la construction à tout va, c'est terminé. Et donc il faut qu'on leur propose des alternatives intéressantes. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est justement ça.
Alors là, on discute du plan climat énergie territorial. Là, on en vient assez vite à discuter de finances, ce serait peut-être aller trop loin, mais disons de valorisation, de recherche de profit par rapport à l'exploitation d'un espace foncier. Est-ce que vous êtes aussi dans ce discours-là de dire si aujourd'hui on veut changer les choses en termes de changement climatique, d'adapter un territoire à une évolution du changement climatique, il faut présenter des solutions qui soient économiquement rentables?
Absolument. Je pense que rentabilité et atténuation ou adaptation au changement climatique sont compatibles. Tout ce que je vais proposer est rentable, plus que les pratiques traditionnelles. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un message un peu d'espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement par la coercition, par l'interdiction, par la réglementation qu'on peut faire évoluer les choses, mais aussi en proposant de nouvelles technologies qui sont efficaces, qui sont productives, qui sont rentables.
Alors entre l'innovation des chercheurs et la mise en application, il y a parfois un laps de temps qui est plus ou moins long. Au-delà des idées que vous avez pensées, que vous allez présenter aujourd'hui lors de ces premières assises, est-ce qu'aujourd'hui on est déjà dans une mise en application ou bien on est juste aux prémices de ces débuts de réflexion à mettre en œuvre sur le territoire ?
On en est plus qu'aux prémices. Nous avons dans la région de Montpellier, à Restinclière par exemple, des sites d'expérimentation agroforestière qui font référence dans le monde. On est prêt à développer ça dans la région de Montpellier. Nous avons à La Valette, Agropolis, un prototype de système agrivoltaïque qui fait également référence. Nous sommes prêts à le développer dans l'agglomération de Montpellier. Et aujourd'hui, je ferai des propositions précises au président de l'agglomération pour que ces innovations soient mises en œuvre sur des terrains qui appartiennent à l'agglomération, à Montpellier même.
Alors, vous allez dire si je me trompe, hein, mais entre l'agroforesterie et puis l'agrivoltaïque, est-ce que finalement la solution que vous proposez, vous, c'est pas de sur un même territoire de mettre plusieurs activités?
Exactement.
L'agroforesterie, c'est à la fois la culture, arbre et puis une culture au sol. Ouais. Et l'agrovoltaïque, à mon avis, ça doit pas être très loin d'avoir une culture et panneau voltaïque. C'est ça, c'est de mixer sur un même territoire différentes sources de...
Tout à fait. On est aujourd'hui sur... Autrefois, on faisait des choses simples. On simplifiait les systèmes. On faisait de la monoculture. On faisait des choses... On fait des centrales photovoltaïques au sol qui stérilisent les sols. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes plus subtils qui mélangent les productions, qui sont complémentaires et qui, du coup, sont plus productifs. Je montrerai tout à l'heure que les systèmes agroforestiers ou les systèmes agrivoltaïques sont 50 à 70% plus productifs que lorsque vous séparez les productions. Et ça, c'est un avantage énorme dont il faut tirer parti.
Très bien, bonjour, merci. Bonne journée.
Merci beaucoup.
On va quand même essayer d'aller voir du côté du monde de l'entreprise. Je suis donc avec Olivier de Broissia, donc de la société Module Auto. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer les concepts que vous développez au sein de votre société Module Auto ?
Alors Module Auto est un système d'autopartage, c'est-à-dire de voitures en libre-service qui est disponible sur l'agglomération de Montpellier. On a une vingtaine de stations réparties principalement sur la ville de Montpellier mais aussi sur Castelnau. L'idée est simple, c'est de pouvoir proposer à des gens de louer à l'heure des véhicules, donc de partager des voitures qui seront stockées sur des stations disséminées dans la ville. Et l'intérêt est de ne pas posséder forcément une voiture en ville, alors qu'on en a besoin que de manière très ponctuelle et qu'on peut utiliser d'autres types de transports. Et c'est tout l'intérêt de l'autopartage, parce qu'au lieu d'avoir un réflexe complètement qui soit toujours le même, c'est-à-dire prendre sa voiture pour tout et n'importe quoi, notamment pour aller chercher son pain à 500 mètres, là, on va plus réfléchir, parce que forcément, on a une station disponible pas loin de chez soi, donc c'est assez pratique, mais on n'a pas la clé dans sa poche. Il faut faire une petite réservation sur Internet, ça met 30 secondes, le temps d'une réflexion pour savoir si on va y aller en vélo, en tram ou en voiture. Mais effectivement, on sait que dans la société actuelle, on a besoin quand même de véhicules pour se déplacer, notamment quand on va se balader le week-end ou quand on va quand on a besoin d'aller quelque part alors que les transports publics n'y vont pas. Donc là, on propose cette alternative. Et à ce moment-là, on va payer ensuite à l'utilisation le véhicule.
Finalement, la solution de transport que vous proposez s'adapterait aux personnes qui, on va dire, sont, 90% de leur vie urbaine en centre urbain, qui ont besoin de temps en temps d'un véhicule pour aller un peu plus loin ou se promener dans la ville, mais à titre plutôt exceptionnel.
Oui, en fait, c'est beaucoup de gens en fait qui sont dans cette situation, qui vont faire moins de 10 000 km par an et qui, effectivement, ont un besoin très ponctuel. Ça peut être aussi dans la ville, par exemple, faire une grosse course, on a besoin de déplacer quelque chose de lourd. Donc on n'est pas dans la négation de l'utilité d'un véhicule, mais on pense qu'il faut l'utiliser autrement pour vraiment baisser notre utilisation de voitures individuelles. Et donc on a été soutenu au démarrage par Montpellier Agglomération et par la ville de Montpellier, qui nous a octroyé des places. Sur voirie et dans les parkings. Et on a aujourd'hui 800 utilisateurs de notre service. Et on espère progresser encore. On a aussi pas mal d'entreprises du centre-ville qui utilisent nos services, qui n'ont pas besoin d'avoir un véhicule de société qui n'ont plus envie de rembourser des frais kilométriques, ce qui pose d'autres problèmes, des problèmes de sécurité à leurs salariés. Donc ils ont opté pour la solution Module Auto.
Alors c'est une solution qui se développe, on va dire, autour des grandes villes, qui s'est déclinée aussi avec le vélo ou avec d'autres modes de transport. Si je vous pose la question, votre société participe-t-elle au développement de l'Europe? Je suppose que vous allez me répondre oui, mais je voudrais savoir pour vous, quelle idée vous en avez du développement durable? Qu'est-ce que pour vous, vous appelez développement durable?
Alors c'est un terme assez fourre-tout, hein. Voilà, c'est une autre, c'est peut-être une autre manière de penser l'économie, de prendre en fait ce qui existe déjà. Souvent c'est des solutions qu'on a déjà à portée de main, mais qui sont qui peuvent être agencées d'une certaine manière, qui va faire que on va être plus dans la durée, dans l'idée que on va un petit peu moins être dans le consommable perpétuel et des choses, mais plus dans le développement de services, si jamais ça peut suffire, ou alors dans le développement de solutions quand il faut les acheter, qui soient plus pérennes. Et qui est plus local.
Donc vous êtes venu aujourd'hui assister à ces premières assises du plan climat-énergie territorial. Pour quelle raison?
C'est pour avoir une vision plus globale de ce qui se fait sur le territoire. Et puis parce que je pense aussi que notre solution est partie intégrante de toutes ces différentes solutions qui sont proposées aujourd'hui. Et donc c'est pour échanger avec les acteurs du territoire qui ont une démarche qui va vers effectivement le développement durable, une énergie plus maîtrisée. Et voilà, donc c'est ça qui m'intéresse.
Très bien, je vous remercie. Bonne journée.
Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, réalisée par Radio Pays d'Hérault.
El vaso de mis ansias en lo que vuelvo a sentir, nada estrecho entre mis brazos y hace frío en mi porvenir. Esta maraña de dudas hoy es pura cicatriz, es la cruz que me dejaste en días del pasado. La sombra se me escurre en huellas que me has hecho, y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. Hoy anhelo recordarte, tango me hiciste sufrir. Tu mirada desde el fondo de la copa vuelve hacia mí. Hoy me acuerdo de tu nombre, de tu Biblia sin Jesús, un reloj sin manecilla y en la mesita un velador sin luz. La noche que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. La sombra se me escurre en huellas que me has hecho, y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé.
Pour conclure ces premières assises du plan climat-énergie territorial qui se sont déroulées ce jeudi 12 janvier au Quorum à Montpellier et à l'initiative de Montpellier Agglomération avec la ville de Montpellier et les villes de Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols et Baillargues, je vous rappellerai juste que ces premières assises s'inscrivaient dans le cadre d'une démarche d'élaboration mutualisée d'un plan climat-énergie territorial pour contribuer localement à l'atteinte des objectifs fixés au niveau européen en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie et d'augmentation de la part des énergies renouvelables. Ces assises avaient également pour but de préparer et d'adapter le territoire au changement climatique et à ses impacts. Elles s'adressaient à l'ensemble des acteurs du territoire, à savoir collectivités, institutions, entreprises, associations, laboratoires de recherche, pour que chacun puisse y apporter sa contribution. Pour ce qui est de ma part, eh bien, je me priverai bien d'émettre une conclusion ou un commentaire Par rapport à mon avis personnel, je vous laisserai chacune et chacun vous faire votre propre avis par rapport à ce que vous avez pu entendre dans le cadre de cette émission L'eau à la bouche consacrée à ses premières assises. De ce que j'ai pu entendre, certains doutent des bienfaits et bien fondés de ce plan climat-énergie territorial, à savoir si la concertation, ce que chacun a pu dire, sera pris ou pas en compte dans les actions qui seront menées à l'avenir. D'autres, je le dirais également, sont beaucoup plus optimistes et ont une confiance en ces outils pour pouvoir adapter le territoire au changement climatique qui se déroule en ce moment même, ou du moins qui va arriver dans les prochaines années. Pour ce qui est de l'eau à la bouche, eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est de suivre ensemble cette évolution ou ce travail, et puis je pense qu'on en reparlera très certainement dans le cadre d'autres émissions dans les mois ou dans les années à venir. Bonne soirée ou bonne journée à toutes et à tous. Plan climat énergie territorialement votre, j'avais envie de dire. Ciao.
Ainsi s'achève l'émission L'eau à la bouche, diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Clapaz, Divergence FM et Radio Larzac, une émission mensuelle interassociative. C'était un reportage de Mathieu Tellen. Quant aux pauses musicales, elles étaient signées Melingo, chanteur et musicien argentin qui vient de sortir un album chez Harmonia Mundi. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.